Chapitre 16. Le visiteur. Imaginez-vous, si vous le pouvez, ce que fut le reste de la soirée. Elles s'accroupirent près du feu qui brillait, pétillait et se faisait aussi beau qu'il pouvait, derrière son humble grille. Elles soulevèrent les couvercles des plats et trouvèrent une bonne soupe chaude, appétissante, qui, à elle seule, eût constitué un bon repas. Des sandwiches, des rôtis et des brioches. Le tout suffisant pour deux. Le verre à dents servit à Becky de tasse à thé, et le thé était si délicieux qu'il n'était pas nécessaire d'imaginer que c'était autre chose que du thé. Réchauffées, bien restaurées, elles étaient heureuses. Sarah, après la réalisation de tous ses rêves, reprenait sa vraie nature et se livrait à la joie de tout son cœur. Elle avait vécu si longtemps par l'imagination qu'elle était toute portée à admettre les choses les plus merveilleuses sans les trouver extraordinaires. Bien que je connaisse personne au monde qui ait été capable de réaliser une telle féerie, il est bien évident que quelqu'un en est l'instigateur. Nous voici assises près de son feu, et c'est un vrai feu, quel qu'il soit, où qu'il soit, j'ai un ami Becky. On ne saurait nier le sentiment d'appréhension qui se mêlait à leur ravissement. Pendant qu'elles se régalaient devant le bon feu, appréhension qui leur faisait échanger de temps en temps des regards inquiets. « Oh, mademoiselle !» murmura Becky. « Croyez-vous que toutes ces bonnes choses pourraient s'évanouir? Est-ce qu'il ne serait pas plus prudent de nous dépêcher de les faire disparaître ?» Et elle fourra son sandwich en entier dans sa bouche, estimant que, si tout cela n'était qu'un rêve, personne ne serait choqué de ses mauvaises manières. « Non, dit Sarah, cela ne s'évanouira pas. Je mange cette brioche et j'en savoure le goût. On ne mange pas réellement dans les rêves, on s'imagine seulement qu'on mange. D'ailleurs, je me pince de temps en temps, et je viens même de toucher exprès un tison en flamme qui m'a brûlé. » Une douce torpeur les envahissait peu à peu. C'était la somnolence d'enfants heureux et bien nourris. Elles restèrent assises dans le rayonnement du feu et en jouir, jusqu'au moment où Sarah, regardant son lit transformé par enchantement, pensa qu'il y avait assez de couverture pour partager avec Becky. Et dans la mansarde voisine, il y eut ce soir-là plus de confort que sa petite habitante eût jamais rêvé d'en posséder. Becky se retourna et regarda autour d'elle avec des yeux gourmands. « Si tout cela a disparu demain matin, mademoiselle, il restera toujours certain que cela y a été cette nuit, et je ne l'oublierai jamais. » Elle inspecta tous les objets, l'un après l'autre, comme pour en fixer le souvenir dans sa mémoire et désignant chaque chose de son doigt. Le feu était là, et la table devant le feu. La lampe répandait une lumière rose, tendre. Il y avait un édredon de satin sur votre lit, et un beau tapis par terre. Tout était magnifique, et... Elle s'arrêta une seconde, passa une satisfaction sa main sur son estomac, et il y avait de la soupe, des sandwiches et des brioches. Sur cette constatation, qui, elle du moins, était une réalité, Becky s'en alla. Les nouvelles se répandent vite dans une pension. Tout le monde savait le lendemain matin que Sarah Crewe était tombée en grande disgrâce, et qu'Ermengarde était punie, et que Becky aurait été jetée dehors avant le déjeuner si on avait pu se passer d'elle. Où Miss Minchin eût-elle trouvé une autre créature, aussi humble et aussi abandonnée de tous, pour travailler comme une esclave, et moyennant un salaire aussi faible? Quant à Sarah, les grandes élèves savaient que si Miss Minchin la conservait, c'était également pour des raisons pratiques. « Elle grandit si vite et devient si savante, dit Jessie à Lavinia, qu'on lui fera bientôt faire la classe. Miss Minchin sait qu'elle travaillera pour rien. » C'était peu chic à vous, Lavi, d'aller raconter à Miss Minchin qu'on s'amusait dans le grenier. Comment l'avez-vous découvert? Je l'ai su par Lottie. C'est un bébé. Elle a livré ce secret sans s'en rendre compte. J'ai parfaitement agi en le racontant à Miss Minchin, dit Lavinia avec affectation. C'était mon devoir strict. Il est absurde que Sarah prenne encore de si grands airs et qu'on fasse d'elle un tel cas, alors qu'elle est vêtue de haillons. Qu'est-ce qu'elles faisaient toutes deux au moment où Miss Minchin les surprit? Elle jouait sans doute à leur stupide jeu qui consiste à se créer des imaginations. Ermengarde avait monté son panier pour en partager le contenu avec Sarah et Becky. Nous, elle ne nous invite jamais à partager avec elle. Ce n'est pas que je m'en soucie, mais ce n'est pas très distingué d'aller partager ses friandises avec des servantes dans leur mansarde. Je m'étonne que Miss Minchin n'ait pas envoyé Sarah, en admettant même qu'elle lui rende des services, comme répétitrice. Si on la renvoyait, où irait-elle ? Demanda Jessie anxieusement. Qu'est-ce que j'en sais ? Répondit Lavinia avec humeur. Il serait bien amusant de surveiller son attitude quand elle viendra en classe ce matin, après ce qui s'est passé. Elle n'a pas dîné hier et ne dînera pas aujourd'hui. Jessie n'était pas aussi méchante qu'elle était sotte. Eh bien, moi, je trouve que cela est inhumain. On n'a pas le droit de la faire mourir de faim. Quand Sarah entra dans la cuisine, ce matin-là, la cuisinière la regarda de travers. Les autres servantes firent de même, mais elle passa rapidement devant elle. Elle s'était levée un peu plus tard que de coutume, et comme Becky en avait fait autant, elle n'avait pas eu le temps de se voir et était descendue en grande hâte. Sarah traversa le réduit fétide, où Becky était en train de frotter énergiquement une bouilloire tout en chantonnant, pour incroyable que cela paraisse. Elle regarda Sarah avec une figure épanouie. « La couverture était encore là quand je me suis réveillée, mademoiselle, » dit-elle avec volubilité. « La mienne aussi, » dit Sarah. « Rien n'a disparu, rien. En m'habillant, j'ai mangé des restes. »« C'est admirable !» s'écria Becky, dans une sorte de ravissement. Et comme la cuisinière entrait à ce moment, elle se remit à fourbir sa bouilloire. Miss Minchin, ainsi que Lavinia, s'attendaient à trouver sur le visage de Sarah, quand elle arriverait en classe, le reflet de ses humiliations. Sarah avait toujours été, pour elle, une énigme indéchiffrable, car sa sévérité n'avait pas d'action sur elle. Quand elle la grondait, elle restait calme, écoutait poliment, le visage impassible. Quand elle la punissait, Sarah s'acquittait de ses devoirs supplémentaires, se passait de manger, sans proférer aucune plainte et sans manifester aucun signe de révolte. Le fait même qu'elle ne répondait jamais avec impertinence semblait à Miss Minchin le comble de l'insolence. Mais cette fois, la privation de nourriture qu'elle avait subie la veille, la violente scène de la nuit précédente, la perspective de souffrir encore de la faim ce jour, avaient dû abattre son orgueil. Il serait bien extraordinaire qu'elle ne descendît pas avec les joues pâles, les yeux rouges, une figure abattue et confuse. Miss Minchin l'aperçut d'abord au moment où elle entrait dans la salle d'études pour s'occuper des petites et leur faire réciter leurs leçons de français. Sarah s'avançait d'un pas léger, les joues animées et un sourire au coin des lèvres. C'était la chose la plus étonnante que Miss Minchin eût jamais vue. Elle en fut estomaquée. De quelle étoffe cette enfant était-elle faite? Que pouvait signifier une pareille attitude? Vous ne paraissez pas vous douter que vous êtes en disgrâce, lui dit-elle. Votre cœur est-il donc complètement endurci? La vérité, c'est que, enfant ou grande personne, il est bien difficile d'être malheureuse ou même de le paraître alors qu'on a été bien nourri, qu'on a dormi une longue nuit dans un lit bien chaud, qu'on a été surprise par le sommeil au milieu d'un conte de fées et qu'on s'est réveillé pour constater que ce conte était une réalité. Sarah ne put chasser de ses yeux le rayonnement de sa joie et répondit à Miss Minchin stupéfaite, avec tous les signes du plus profond respect, « Je vous demande pardon, Miss Minchin, mais je sais que je suis en disgrâce. » Ayez la bonté de vous en souvenir, et ne prenez pas des airs comme si vous veniez de faire un héritage. C'est une impertinence de plus. Et rappelez-vous que vous n'aurez rien à manger aujourd'hui. « Je le sais, Miss Minchin, » répondit Sarah. Mais en se détournant, son cœur bondit de joie au souvenir de tout ce qui s'était passé la veille. « En quel état serais-je si la puissance magique n'était pas venue à mon aide ?» pensa-t-elle. « Elle ne doit pas avoir bien faim, » dit Lavinia avec un rire méchant. « Regardez-la donc, elle s'imagine sans doute qu'elle a mangé un bon dîner. »« Elle n'est vraiment pas comme tout le monde, » dit Jessie, qui observait Sarah au milieu des petits élèves. « Elle me déroute. » « C'est une créature absurde !» grogna Lavinia. Durant toute la journée, le visage de Sarah resta épanoui. Les domestiques l'observaient curieusement et chuchotaient derrière son dos. Quant à Miss Amelia, dont les petits yeux bleus exprimaient l'ahurissement, elle ne pouvait s'expliquer cet air de bien-être, chez quelqu'un qui avait encouru la colère d'une personne aussi importante que Miss Minchin. Mais après tout, cela répondait bien au caractère obstiné de Sarah, qui était, sans doute, résolue à tenir tête à Miss Minchin jusqu'au bout. Sarah, en y réfléchissant, s'était décidée à garder secrète, si c'était possible, toutes ses merveilles. S'il prenait fantaisie à Miss Minchin de remonter à la mansarde, elle découvrirait naturellement le poteau rose. Mais une prochaine et nouvelle visite de sa part était peu vraisemblable, à moins qu'elle ne conçût des soupçons. Ermengarde et Lottie seraient surveillées si étroitement qu'elles n'oseraient plus quitter leur lit. Sarah pourrait confier le secret à Ermengarde, sans crainte d'être trahie. Quant à Lottie, si elle découvrait quelque chose, on l'obligerait à garder le secret. D'ailleurs, la puissance magique l'aiderait peut-être à dérober ses merveilles aux yeux profanes. « Mais quoi qu'il arrive, se répétait Sarah, il existe quelque part dans le monde un être adorablement bon qui est mon ami, mon ami. Et si je ne devais même jamais le connaître ni le remercier, du moins, je ne me sentirais plus aussi seul. » Ce jour-là, le mauvais temps battit tous ses records sous le rapport de l'humidité, de la boue et du froid. Il y eut encore plus de commissions à faire que la veille, et la cuisinière, sachant que Sarah était en disgrâce, fut plus dure encore que de coutume. Mais qu'importait à Sarah? Est-ce que le pouvoir magique n'était pas son ami? Le souper de la nuit précédente lui avait donné des forces. En outre, elle savait qu'elle dormirait bien la nuit suivante et qu'elle aurait chaud. Et quoique naturellement, elle commença de sentir la faim, elle pouvait attendre jusqu'au lendemain où ses repas lui seraient rendus. Il était très tard, quand on l'autorisa enfin à remonter dans sa soupente. Elle avait dû travailler dans la salle d'études jusqu'à 10 heures, et même elle y avait pris tant de goût qu'elle était restée plongée dans ses livres après l'heure fixée. Arrivée devant sa porte, il faut bien avouer que son cœur battait fort. « Il se pourrait que tout ait été emporté, » murmura-t-elle, essayant de se donner du courage. Elle ouvrit la porte et entra. Elle poussa un petit cri de joie et de surprise, ferma la porte et, s'y appuyant, embrassa d'un rapide coup d'œil toute la pièce. L'enchanteur était revenu et avait fait encore plus de changements que la veille. Le feu était allumé et pétillait plus joyeusement encore. La mansarde était si complètement transformée que Sarah se frottait les yeux, croyant rêver. Sur la petite table, un nouveau souper, et cette fois Becky n'avait pas été oubliée. Pour elle aussi, une tasse et des assiettes. Sur le manteau de la cheminée, une grande bande d'étoffes richement brodée de couleurs vives, aux dessins étranges et quelques bibelots. Tout ce qui était laid à l'œil avait été recouvert par de jolies étoffes. Fixées au mur, de riches broderies multicolores et de ravissants éventails. Ça et là, de larges poufs, si épais qu'on pouvait s'en servir comme de sièges. Un coffre en bois recouvert d'un tapis et de coussins pouvait servir de canapé. Sarah s'avança lentement et s'assit, pour tout examiner à loisir. « C'est absolument comme dans les contes de fées. Il me semble que je pourrais souhaiter n'importe quoi, des diamants et des sacs d'or, et qu'ils apparaîtraient. Ce ne serait pas plus étrange que ce qui m'arrive. Est-ce vraiment mon grenier? Suis-je la même Sarah, transie, mouillée, déguenillée? J'ai toujours désiré voir se réaliser un conte de fées, et me voilà nageant en pleine féerie. J'ai l'impression d'être une fée moi-même, avec le pouvoir de transformer de vils objets en trésors. » Elle alla frapper au mur pour appeler le prisonnier de la cellule voisine. Quand Becky entra, elle faillit tomber à la renverse de surprise. « Bonté divine !» s'écria-t-elle. « Oh, Miss !»« Vous voyez ?» dit Sarah. Ce soir-là, Becky s'assit sur un coussin devant le feu et eut une tasse et une soucoupe à elle. Au moment d'aller se coucher, Sarah remarqua qu'elle avait un épais matelas de plus et des oreillers de duvet. Son vieux matelas et son oreiller avaient été transportés chez Becky, et celle-ci par conséquent jouissait d'un confort inconnu d'elle jusque-là. « D'où vient tout cela ? avait demandé Becky à un moment de la soirée. « Ne le demandons même pas, » répondit Sarah. « Je préférerais l'ignorer, si ce n'est que j'aimerais à dire merci. Plus il y a de mystère, plus c'est beau. » Dès ce moment, Sarah marcha de surprise en surprise. Presque chaque jour amenait une nouvelle gâterie, et chaque soir, en ouvrant sa porte, Sarah trouvait sa chambre plus confortable et plus ornée. En peu de temps, la mansarde se transformait en une ravissante petite chambre, remplie de toutes sortes d'objets précieux et rares. Les murs disparaissaient entièrement sous les tableaux et les draperies. On vit apparaître des petits meubles pliants. Une étagère fut suspendue au mur, puis remplie de livres. Il n'y manquait plus rien. Quand Sarah descendit, le matin, les restes du souper étaient sur la table, et quand elle remontait le soir, l'enchanteur les avait remplacés par d'autres mets succulents. Aussi, Miss Minchin pouvait être plus acerbe et plus dure qu'elle ne l'avait jamais été, Miss Amelia plus morose et les domestiques plus vulgaires et plus impolis, Sarah plus maltraitée, plus grondée. Que lui importaient toutes ces avanies, alors qu'elle vivait en plein conte de fées? La réalité présente était plus romanesque et plus délicieuse que tout ce qu'elle avait pu inventer précédemment pour réconforter sa jeune âme et l'empêcher de sombrer dans le désespoir. Souvent, quand on la grondait, elle avait peine à réprimer un sourire. « Ah, si vous saviez !» se disait-elle intérieurement, « si vous saviez !» La sécurité du confort et du bonheur dont elle jouissait maintenant la soutenait. En très peu de temps, elle parut moins maigre et reprit des forces. Ses joues se colorèrent et ses yeux ne semblèrent plus trop grands dans sa petite figure. « Sarah Crewe a une mine merveilleuse !» confia Miss Minchin à sa sœur comme un regret. « Oui, » répondit la pauvre Miss Amelia avec étourderie, « en vérité elle engraisse, et ne ressemble plus à un pauvre oiseau affamé. »« Affamé !» releva Miss Minchin furieuse. « Pourquoi affamé ? Elle a toujours eu une nourriture abondante !»« Oh, sans doute !» répondit Miss Amelia avec humilité, inquiète d'avoir dit, comme bien souvent, ce qu'il ne fallait pas dire. « C'est fort désagréable à remarquer, chez une enfant de cet âge !» dit Miss Minchin d'un air hautain. « Ah, remarquer quoi ?» osa demander Miss Amelia. « C'est presque de la provocation !» répondit Miss Minchin agacée. Elle voulait parler de la bonne mine de Sarah, et l'appelait une provocation, ne sachant quel autre terme employer. Elle ajouta. « Le courage et la volonté de n'importe quel autre enfant eussent été entièrement abattue et brisée par toutes les déchéances qu'elle a dû subir. Mais cette petite semble vraiment aussi indomptable que si elle était née princesse. « Vous souvenez-vous, » interrompit maladroitement Miss Amelia, « de ce qu'elle vous a dit un jour dans la salle d'études, vous demandant ce que vous feriez si vous découvriez que... « Non, je ne m'en souviens pas. Ne dites pas de bêtises, Amelia. » Mais elle se souvenait parfaitement. Naturellement, Becky aussi commençait à engraisser et à prendre un peu d'assurance. Il n'en pouvait être autrement, car elle aussi avait son rôle à jouer dans le conte de fées. Elle possédait maintenant 2 matelas, 2 oreillers, une grande abondance de couvertures, et avait chaque soir un souper bien chaud et sa place sur un coussin auprès du feu. Il n'était plus question de la Bastille et de ses prisonniers, et il n'y avait plus que 2 enfants heureuses. Quelquefois, Sarah lisait à haute voix un de ses livres, où elle étudiait, ou encore elle restait à regarder le feu, se demandant quel pouvait bien être son ami, et s'il lui serait possible de lui exprimer sa reconnaissance. Puis il y eut encore une autre surprise merveilleuse. Un commissionnaire déposa un jour plusieurs paquets dont l'adresse portait en grandes lettres majuscules. « À la petite fille de la mansarde de droite ». C'est Sarah elle-même qui vint ouvrir et qui le reçut. Elle plaça les 2 plus gros paquets sur la table du vestibule et elle était en train de lire l'adresse quand Miss Minchin, qui descendait l'escalier, l'aperçut. « Portez ces paquets à l'élève, à qui ils sont destinés, » lui ordonna-t-elle sévèrement. « Ne restez pas là à les regarder. »« C'est à moi qu'ils sont adressés, » répondit Sarah avec calme. « À vous ? Que voulez-vous dire ? Je ne sais pas d'où ils viennent, mais c'est à moi qu'ils sont adressés. » Puisque c'est moi qui couche dans la mansarde de droite, Becky occupe l'autre mansarde. Miss Minchin, intriguée, s'approcha et regarda les paquets. « Qu'est-ce qu'il y a dedans ? » demanda-t-elle.
« Je n'en sais rien, » répondit Sarah.
« Ouvrez-les !»
Sarah obéit. Quand les paquets furent ouverts, le visage de Miss Minchin prit une expression singulière. Les paquets contenaient des vêtements élégants et de bonne qualité, des chaussures, des bas, des gants et un manteau bien chaud. Il y avait encore un joli chapeau et un parapluie. Tout était de bon goût. Sur la poche du manteau, un papier était épinglé avec ces mots. « Apportés tous les jours, seront renouvelés quand cela sera nécessaire. »
Miss Minchin était tout abasourdie. D'étranges pensées se faisaient jour dans son esprit intéressé et cupide. Se serait-elle trompée après tout ? Cet enfant abandonné n'aurait-elle pas quelque ami puissant et original malgré les apparences contraires ? Existerait-il quelque parent ignoré jusqu'alors et qui aurait découvert ses traces ? Avait-on décidé de s'occuper d'elle de cette manière originale et mystérieuse ? Les parents éloignés sont parfois très bizarres, surtout les oncles, riches et vieux garçons, qui ne se soucient pas d'avoir des enfants auprès d'eux. Un homme de ce genre pourrait préférer veiller de loin sur sa jeune parente. Il serait certainement tatillon, susceptible et irritable. Ce serait bien désagréable d'avoir affaire à lui, s'il venait à apprendre toute la vérité sur les traitements infligés à sa pupille. Elle se sentait très mal à l'aise, et, dans son indécision, lançait un regard de côté à Sarah. « Eh bien, » dit-elle, sur un ton qu'elle n'avait jamais plus employé depuis que la petite fille avait perdu son père, « vous avez un protecteur qui est très bon pour vous. Puisque ces vêtements vous ont été donnés et que vous en aurez d'autres quand ceux-ci seront usés, vous pouvez aller les mettre tout de suite. Quand vous serez habillée, descendez dans la salle d'études pour apprendre vos leçons. Vous n'irez plus faire de commission aujourd'hui. » Une demi-heure plus tard, quand la porte de la classe s'ouvrit et que Sarah entra, toutes les élèves restèrent muettes d'étonnement.
« Ma parole !» s'écria Jessie, poussant Lavinia du coude. « Regardez la princesse Sarah !»
Lavinia devint toute rouge. C'était bien vraiment la princesse Sarah. Jamais depuis l'époque où elle avait été surnommée princesse, elle n'en avait eu plus l'apparence.
Ce n'était plus la Sarah qu'elles avaient vu descendre les escaliers de service quelques heures auparavant. Elle portait le genre de robe que Lavinia lui enviait autrefois, d'une coupe parfaite et d'une couleur tressaillante. Ses petits pieds étaient redevenus ceux qu'ils étaient quand Jessie les avait admirés et ses cheveux, dont les boucles épaisses la faisaient ressembler à un petit poney de Shetland, étaient maintenant retenus par un ruban et ne pendaient plus en désordre.
« Peut-être a-t-elle hérité ?» murmura Jessie. « J'ai toujours pensé qu'il lui arriverait quelque aventure extraordinaire. Elle est si étrange. »«
Peut-être que les mines de diamants ont soudain reparu ?» dit Lavinia d'un ton sarcastique. « Ne lui faites donc pas le plaisir de tant la regarder, petite sotte !»«
Sarah !» appela Miss Minchin. « Venez vous asseoir ici. » Et pendant que toutes les élèves la dévisageaient et se poussaient du coude, Sarah alla occuper son ancienne place d'honneur, s'y assit et s'absorba dans ses livres. Le soir, de retour dans sa chambre, après avoir soupé avec Becky, elle resta assise, un long moment, à regarder pensivement le feu.
« Êtes-vous en train d'inventer quelque histoire, mademoiselle ?»
demanda Becky avec une respectueuse douceur, car elle ressentait une profonde admiration pour tout ce que disait et faisait Sarah. Sarah secoua la tête.
« Non, Becky, je me demande ce que je dois faire. Je ne peux m'empêcher de penser à cet ami inconnu. » S'il veut rester anonyme, il serait indiscret de ma part de chercher à découvrir son nom, et cependant je voudrais tant qu'il sache à quel point je suis reconnaissante et combien il m'a rendue heureuse. Dans sa grande bonté, il aimerait sans doute à l'apprendre, et il serait plus sensible qu'au remerciement. Je désirerais... »
Elle s'arrêta court, parce que, à ce moment, ses yeux tombèrent sur une papeterie contenant tout ce qui était nécessaire pour écrire. Papier, enveloppes, plumes et encres qui, placés sur une table dans un coin, n'avaient pas encore attiré son attention.
« Oh, pourquoi n'y ai-je pas songé plus tôt ?»
Elle alla chercher la papeterie et s'installa pour écrire auprès du feu.
« Je peux lui écrire, » dit-elle joyeusement, « et laisser la lettre sur la table. » »«
La personne qui viendra chercher les restes de notre souper emportera également la lettre. Je ne poserai aucune question. Il ne pourra m'en vouloir de le remercier. »
Et voici ce qu'elle écrivit.
« J'espère que vous ne trouverez pas indiscret que je vous adresse cette lettre, malgré votre désir de rester inconnu. Soyez persuadé que je ne veux pas être impoli ni essayer de découvrir votre secret, mais seulement vous remercier d'être si bon, si délicieusement bon pour moi, en me faisant vivre un conte de fées. Je vous en suis tellement reconnaissante, je suis si heureuse, et Becky aussi. Pour elle également, tout est merveilleux et exquis. Nous nous sentions si seuls, nous avions si froid, si faim, et maintenant, quand je songe à tout ce que vous avez fait pour nous, permettez-moi de vous dire ces quelques mots. Je ne pouvais me taire. Merci. 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 »
Signé la petite fille de la mansarde. Le lendemain, Sarah laissa la lettre sur la table, et le soir, celle-ci n'y était plus. Le magicien l'avait donc reçue, et cette pensée rendait Sarah bien heureuse. Ce même soir, elle faisait la lecture à haute voix à Becky, avant de se coucher, quand son attention fut attirée par un bruit, venant du côté de la lucarne. Becky avait également entendu.
« Il y a quelque chose là, mademoiselle, » murmura-t-elle, un peu effrayée. « Oui, » dit Sarah. « On dirait le grattement d'un petit chat qui veut entrer. »
Sarah se souvint tout d'un coup d'un petit intrus à longs poils qui lui avait déjà rendu visite une fois. Elle l'avait remarqué dans la journée. Il était assis tristement sur une table devant la fenêtre, dans la maison du monsieur indien.
« Ce doit être le petit singe, » s'écria-t-elle avec une animation joyeuse, « qui s'est enfui de nouveau. »
Elle grimpa sur une chaise, ouvrit la lucarne avec précaution et regarda au dehors. Se détachant sur la neige, car il avait neigé tout le jour, il y avait là, accroupi, un pauvre animal frissonnant. Sa petite figure se contracta piteusement à la vue de Sarah.
« C'est le singe. Il s'est échappé de la mansarde du Lascar et a été attiré par la lumière. »
Becky s'approcha.
« Est-ce que vous allez le laisser entrer ? » demanda-t-elle avec inquiétude.
« Certainement, » répondit Sarah gaiement.
« Il fait trop froid dehors pour un petit singe. Ce sont des animaux délicats. Je vais l'amadouer pour le prendre. »
Elle allongea le bras avec précaution et lui parla d'une voix caressante, celle dont elle se servait avec les moineaux et avec Melchizedek. Son cœur affectueux éprouvait tout naturellement de la sympathie pour les animaux. Elle comprenait leur nature sauvage et craintive.
« Allons, viens, cher petit, je ne te ferai pas de mal. »
Le petit singe avait éprouvé la tendresse humaine dans les mains brunes de Ramdas, et il la sentait pareillement dans celle de Sarah. Il se laissa prendre, et quand il se trouva dans ses bras, il se pelotonna contre elle et saisit une mèche de ses cheveux, les yeux levés sur elle.
« gentil petit singe, » fredonna-t-elle en embrassant sa drôle de petite tête. « Oh, comme j'aime les animaux !»
Il avait l'air content de s'approcher du feu, et quand elle s'assit et le prit sur ses genoux, il la regarda et regarda Becky, ayant l'air de s'intéresser à toutes les deux.
« Il est bien vilain, mademoiselle, n'est-ce pas ?»«
Il ressemble à un bébé très laid, » dit Sarah en riant.
« Je vous demande pardon, petit singe, mais je suis contente que vous ne soyez pas un bébé. Votre mère ne pourrait vraiment pas être fière de vous, et personne n'oserait dire que vous ressemblez à aucun de vos parents. Je vous aime bien tout de même. »
Elle s'adossa à sa chaise et réfléchit.
« Il est peut-être triste d'être aussi laid, et cela le préoccupe. Je me demande si un singe peut se tourmenter. Singe, mon chéri, te tourmentes-tu ? »
Pour toute réponse, de sa petite patte, il se gratta la tête.
Qu'allez-vous en faire ? Demanda Becky. Je vais le garder ici ce soir, et demain, je le ramènerai au monsieur indien. Cela me fera de la peine de te rendre, petit singe, mais il le faut. C'est ta vraie famille que tu dois préférer, car moi, je ne suis qu'une étrangère.
Avant de se coucher, elle lui fit un nid à ses pieds. Il s'y pelotonna et s'y endormit comme un vrai bébé, semblant très satisfait de son nouveau logis.